Les professionnels de santé, comme beaucoup d'autres corps de métier d'ailleurs, sont loin d'être confinés. Au contraire, ils sont en première ligne pour accompagner et soigner les malades touchés par le coronavirus ou non.
Mais les conditions de travail sont plus difficiles que jamais. Il n'est vraiment pas facile d'affronter tout cela seul. Des thérapeutes partout en France se sont donc organisés pour créer le collectif Thérapeutes Solidaires, qui a mis en place une ligne d'écoute gratuite, bien évidemment, à destination des professionnels de santé. On écoute Camille Puech, cofondateur de Thérapeutes Solidaires.
Vous êtes CEO de Cali Social, une société d'accompagnement pour le bien-être et l'efficacité au travail, et vous êtes aussi cofondateur de Thérapeutes Solidaires, un collectif national qui met en place une ligne d'écoute et de soutien pour les professionnels de santé pendant cette crise du Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est créé ce collectif Thérapeutes Solidaires ?
Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a été confronté à la crise du coronavirus chez Cali Social, alors nous, Cali Social, notre métier, c'est ça, c'est d'accompagner les salariés des organisations dans des états de stress, d'anxiété, de dépression. On a été tout de suite conscient que la crise du coronavirus avait un effet très anxiogène, à savoir qu'elle allait, par l'incertitude qu'elle provoquait, allait générer beaucoup d'anxiété chez l'ensemble de la population. Je ne parle pas de la population française, de la population mondiale. On voulait aider à ce moment-là, mais c'est notre métier. On a cherché des solutions, mais ça ne venait pas de même. Et à partir du moment où la France a annoncé le déclenchement du confinement, que les établissements de soins ont commencé à se mobiliser pour accueillir les patients, là, on a tout de suite identifié qu'il fallait une solution pour accompagner ces professionnels de santé qui se retrouvaient au front. À ce moment-là, on avait aussi beaucoup de nos bénévoles thérapeutes qui nous ont précisé qu'elles avaient envie d'aider et de manière bénévole. Et donc, on a eu l'idée avec Nicolas Apruzès et Nathalie Schaap de créer un dispositif H24 bénévole par téléphone et en visioconférence de soins thérapeutiques pour tous les professionnels de santé. Il a fallu en plus de ça mobiliser d'autres outils, d'autres personnes, et donc j'ai contacté le CEO de Ringover qui a été emballé par le projet de mettre en place sa solution au service de Thérapeutes Solidaires et également le CEO de Malte qui est une plateforme de freelancing qui avait déclenché un projet Ready to Help et qui nous a permis de recruter 5 freelances extrêmement rapidement avec des compétences clés pour déployer Thérapeutes Solidaires.
Donc, il y a vous de Cali Social, parmi les cofondateurs, donc il y a également Nicolas Apruzès qui est psychologue clinicien et Nathalie Schaap, sophrologue, vous en avez parlé. Finalement, qui compose ce collectif ?
Alors déjà, il y a plus de 200 thérapeutes bénévoles qui sont là, qui accompagnent sur leur temps en étant disponibles sur la plateforme 0 980 800 600. Il suffit de composer le numéro et vous avez tout de suite un thérapeute qui va décrocher et qui est là pour apporter du soutien à la personne qui compose le numéro. C'est totalement anonyme, totalement confidentiel. En plus de cette aide-là, il collabore également à l'élaboration de fiches pratiques, de supports de communication pour que les établissements de soins aient la capacité de communiquer sur le collectif auprès de leurs collaborateurs. Et en plus de ces thérapeutes, on a une équipe d'une grosse dizaine de personnes, de bénévoles, qui s'occupent de la communication, de la relation presse, du paramétrage des outils, du support IT, pour que tous les thérapeutes puissent réaliser leur mission dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, le collectif, ça doit être entre 220 et 230 bénévoles, justement pour faire en sorte que tout ceci fonctionne et que les soignants, lorsqu'ils nous appellent, il y a quelqu'un qui décroche, qu'on les accompagne et qu'on les accompagne dans la durée.
Donc ce collectif s'adresse à la fois directement aux professionnels de santé qui appellent le collectif, appellent le numéro d'écoute, mais c'est aussi un collectif de conseil pour les établissements de santé finalement.
Mais oui, tout à fait, parce que alors la première étape a été de mettre en place un dispositif dit passif, lorsque quelqu'un nous cherche, nous trouve et nous appelle, mais la réalité c'est que les chefs d'établissement sont confrontés à cette situation de crise, il n'y a pas de précédent, et il faut les aider, il faut les accompagner à gérer la situation pour leurs collaborateurs, et donc on fait ce travail-là également en les conseillant, en les coachant et en leur donnant des outils pour communiquer en interne, gérer la crise, favoriser le télétravail, favoriser le travail de qualité en situation de télétravail parce que on y a tous été imposés, et on fait cette démarche proactive parce qu'elle est nécessaire.
C'est un moyen, en fait, pour vous, pour les professionnels de santé qui doivent rester confinés, de pouvoir continuer à aider leurs confrères, de rester mobilisés et d'apporter son aide, en fait.
Oui, alors, nous, on a un métier... une grande partie des approches thérapeutiques se font très très bien à distance, hein, du soutien psychologique, de l'accompagnement psychologique, du coaching. Ça fait déjà des années qu'on le fait à distance, et donc nous on n'est pas impacté par cette crise du confinement, cette crise de l'arrêt des déplacements. Donc on continue de travailler naturellement. Thérapeute solidaire, on le fait en plus de notre travail que l'on fait actuellement pour plein de salariés qui sont confinés, qui sont en situation de télétravail, qui ont des situations familiales pas faciles, qui ont des situations de travail pas faciles. On continue de le faire, mais en plus de notre travail quotidien, en bénévolat, parce qu'on avait envie de contribuer, eh bien, on vient accompagner des professionnels de santé et les dirigeants d'établissements de soins.
Donc, c'est un soutien thérapeutique, mais moral aussi, en fait.
Oui, alors, moral, ça fait partie du soutien thérapeutique, en fait. Le soutien thérapeutique, c'est un soutien qui a vocation à apporter une résolution à la problématique de la personne. De temps en temps, on va travailler sur le moral par de l'empathie, par de l'écoute active. Mais de temps en temps, on va aussi travailler sur des approches plus... de coaching, en travaillant les problèmes avec la personne, en prenant du recul sur les difficultés et en les conseillant comme un coach finalement. Voilà, on a plein de pratiques différentes et le principe du collectif, ça a été tout de suite de mettre en place un système de coordination. C'était une des volontés notamment de Nicolas Pruzès pour garantir que chaque personne ait un thérapeute qui soit adapté à ses besoins. Tous les thérapeutes ne font pas la même chose et toutes les personnes n'ont pas besoin du même thérapeute.
Les personnels d'hôpitaux appellent depuis longtemps à plus de moyens, même avant la crise du Covid-19. Ils déploraient le manque de personnel, les difficultés. Alors cette crise, quelles difficultés supplémentaires elle crée chez les professionnels de santé dans une situation qui était déjà compliquée en fait avant ?
Ben, très clairement, hein, c'est la pire chose qui pouvait leur arriver. Et ça fait déjà de nombreuses années que... L'État cherche à réduire le coût, les frais de fonctionnement de tout, hein, les ministères, de toutes les collectivités. Il y a une politique de réduction du coût des frais de fonctionnement. Les hôpitaux, les établissements médico-sociaux ne sont pas du tout épargnés. Et ces dernières années, ça a été encore plus fort. Il y a une vraie volonté d'avancer sur la réduction des coûts. Et juste avant la crise, on était dans une situation où il y avait eu beaucoup de travaux qui avaient été menés pour couper les subventions, couper les coûts, et des situations très très délicates rencontrées au sein des établissements. Et finalement, une crise qui se déclenche là-dessus, c'est assez catastrophique parce que c'est le moment où vous êtes fatigué, c'est le moment où, dans une phase de transformation, on perd espoir. Et là, par-dessus, c'est une forte charge de travail qui arrive. On rabat toutes les cartes et finalement, on demande aux professionnels de santé de fournir un surinvestissement alors qu'ils sont déjà proches de l'épuisement. C'était vraiment la pire situation qui pouvait arriver pour eux. Je pense que l'État en est assez conscient. Il y a eu quelques actions qui ont été menées, notamment des primes, des revalorisations, des budgets, parce que la situation est très très difficile pour tous les professionnels de santé. Et puis pas seulement eux, parce que on parle toujours du médecin, mais je pense beaucoup aux infirmiers, aux aides-soignants, à tout le personnel de logistique et le personnel de ménage qui, tous les jours, est également au front. Hein, quand vous rentrez dans une pièce qui a connu des malades avec un virus viral, vous vous exposez vous-même à faire tout ça, à être contaminé. Et sans votre travail, finalement, l'hôpital il peut pas fonctionner, l'établissement médico-social il peut pas fonctionner. Donc il y a toutes ces personnes qui sont également confrontées à ce virus et à cette crise.
Il y a des témoignages de soignants ou de personnels d'EHPAD, par exemple, qui se disent se sentir utiles pendant cette crise, qui font ce travail difficile parce qu'ils ne veulent pas abandonner les malades, mais pour autant, ils se sentent désarmés, oubliés. Cette crise, est-ce qu'elle peut créer une forme de découragement aussi plus qu'avant chez les soignants, chez les professionnels de santé ?
Je pense qu'il y a évidemment un découragement, un sentiment d'abandon qui peut être constaté. Surtout, on a vu plein de dysfonctionnements dans l'approvisionnement aussi en masques et en blouses. Il y a clairement ce sentiment de découragement qui peut apparaître et que l'on voit apparaître. Il y a aussi une nouvelle solidarité, des nouveaux modes de fonctionnement. Et peut-être que finalement, cette situation de crise va permettre de tirer des enseignements logistiques, que l'État puisse prendre conscience des besoins des soignants et être moins regardant et dans une logique de contrôle sur la manière dont ils font leur travail et faire plus confiance au personnel soignant. J'espère que, en tout cas, ce sera un enseignement qui sera tiré de cette crise et qu'elle pourra profiter à tout le personnel soignant et assimiler.
Chez Ecalis Social, vous accompagnez donc les travailleurs dans des états de stress, d'anxiété. C'est votre travail de tous les jours. Donc finalement, ce type de démarche d'aide spécifique, c'est parfois nécessaire, même en dehors de crises comme nous la traversons actuellement.
Oui, la vie n'est pas rose tous les jours. Hein, et parfois, elle peut même être très, très difficile. Le stress, ça fait partie de la vie. On y est tous confrontés. Les tendances anxieuses également. Les tendances dépressives, même chose. La vie nous y confronte, la vie personnelle et la vie professionnelle aussi. Et ne pas accompagner, ne pas reconnaître ces difficultés-ci, c'est passer à côté de ce qui fait qu'on peut être performant au travail, on peut créer de la valeur, on peut apporter des solutions et des outils qui répondent à un vrai besoin. Et nous, ce que l'on prône, c'est d'avoir conscience de ce risque-là et de faire en sorte que l'employeur puisse protéger son salarié. Donc nous, la crise, c'est un événement anxiogène, potentiellement traumatogène. Il faut agir pour apporter du soutien, pour éviter les tensions, pour éviter la fatigue. Et derrière, potentiellement, il faudra encore agir. On pourra découvrir beaucoup de symptômes post-traumatiques qui sont susceptibles d'apparaître une fois que, je dirais, que le pic sera passé.
Et donc, pour ce qui est du collectif Thérapeute Solidaire, est-ce qu'il aurait vocation à durer pour maintenir justement ce soutien ?
C'est la volonté de tous. Après, tous les bénévoles sont confrontés à la même problématique. C'est bien de faire du bénévolat, mais il faut avoir les moyens de faire du bénévolat. Parce qu'il faut pouvoir gagner sa vie pour pouvoir consacrer du temps à ce bénévolat. Donc, c'est la volonté de tous. Ce que l'on a déjà évoqué et décidé, c'est que les accompagnements initiés iront jusqu'à leur terme. Donc, un bénévole va plutôt prendre en charge une personne et accompagner une personne jusqu'au bout et lui fournir un très bon accompagnement plutôt que d'accompagner un petit peu 10 personnes. On est plutôt dans cette logique-là, ce qui va nous permettre de continuer le plus longtemps possible. Après, voilà, c'est la volonté de tous. On va voir en fonction aussi de la situation. Et le but, c'est vraiment d'apporter notre contribution auprès de tous ces professionnels qui sont au front à notre manière. Et pour l'instant, on est comme tout le monde, on avance un petit peu à vue parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. J'espère qu'on pourra continuer jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'à la fin de tous les troubles psychotraumatiques que ce coronavirus aura pu occasionner.
Et donc même après, il y aura très certainement des répercussions même à la fin du confinement et du gros pic d'épidémie.
Ouais, c'est sûr et certain. Il y a la crise qui occasionne des traumatismes anxieux, hein, le fait d'être confronté à la mort. Et puis là, c'est une crise assez particulière. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, finalement, presque, que l'humanité a été confrontée à un risque qui aurait pu toucher tout le monde et d'impact sur l'ensemble de la population, un risque sanitaire, un risque de mort. Et ça, c'est un des facteurs majeurs du traumatisme, la confrontation à la mort. Donc ça, c'est le premier symptôme qu'on identifie. Après, il faut savoir qu'il y a plein d'effets indirects à cette crise. Le confinement, par exemple, qui occasionne un isolement social, des personnes qui se retrouvent seules dans 20, 25 mètres carrés, 15 mètres carrés, même dans des villes comme Paris. Ça fait un mois qu'elles sont seules, qu'elles sortent une fois tous les 2-3 jours, qu'elles ne croisent personne. Donc cet isolement favorise des tendances dépressives, la perte de sens, la démotivation, la perte de rythme. C'est un risque très important. Et après, on a d'autres types de confinements, les confinements familiaux, où en fait les gens étaient habitués de se voir le matin, le soir, et là vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des troubles des relations maritales, des troubles dans l'éducation des enfants, ce qui fait qu'on a des situations de crise qui apparaissent à ce niveau-là également. C'est encore une situation indirecte qui fait qu'il y a besoin d'un accompagnement tout de suite et il va y avoir besoin d'un accompagnement derrière.
Il peut y avoir aussi l'isolement, par exemple, pour revenir sur le côté personnel soignant. Certains ne peuvent plus avoir de vie familiale pour ne pas risquer de le transmettre aux parents ou aux enfants, par exemple. Donc, ça rajoute encore plus de difficultés, en fait.
Tout à fait. On a même vu certains soignants qui nous ont appelés parce qu'ils ont pris un appartement, comme ils se sentent très, très exposés au coronavirus. Ils ont souhaité ne pas mettre à risque leur famille et donc ils ont décidé simplement de s'isoler eux. Là, l'avantage, je dirais, du personnel soignant aussi aujourd'hui, c'est que toutes les actions, les mouvements qui sont réalisés par la société d'applaudissements à 20h, de messages sur les réseaux sociaux, de soutien, et puis on a vu aussi beaucoup de professionnels soignants qui, pendant les temps les plus calmes, profiter pour détendre l'atmosphère et avoir des relations au travail qui sont de qualité. Donc ça, c'est un plus, il faut les favoriser. Maintenant, cet isolement que vous évoquez, il est clair que ça va avoir des répercussions à court terme et j'espère le minimum à long terme.
Les actions que vous évoquiez, les actions de soutien, même juste symboliques, vous pensez que c'est vraiment une bonne chose, par contre, pour accompagner le personnel soignant ou toutes les personnes qui sont en première loge de cette crise?
Ouais, bah, on a tous entendu parler de la pyramide de Maslow et de son caractère inefficace dans la société moderne. Finalement, y a eu beaucoup de chercheurs, d'auteurs qui ont travaillé sur cette logique-là et qui ont dit, bah, en fait, à partir du moment où on a la reconnaissance, on n'a plus besoin des facteurs de base de protection, de nourriture, etc. Et tout le professionnel de soins, chaque fois qu'ils entendent la mobilisation générale qui est faite en soutien à leur travail, en reconnaissance à leur action, c'est une chaleur du cœur, une chaleur de l'âme qui est une vraie protection et qui est fondamentale. Sans cette reconnaissance, je pense que la situation serait beaucoup plus difficile à vivre pour eux. Aujourd'hui, ils ont leur mission, leur rôle. Chaque matin, ils se réveillent pour accomplir une mission sur laquelle on est tous derrière eux. Et ce qui valorise cela, ce sont toutes les petites actions que chaque personne va faire individuellement. Donc, il n'y a pas de petites actions, il n'y a que une collaboration, une contribution à un grand ensemble d'un mouvement de reconnaissance à l'attention des personnels soignants et qui est fondamental pour eux, pour leur donner l'énergie de continuer.
Est-ce que au collectif Thérapeute Solidaire, vous cherchez encore des bénévoles ?
On est toujours en recherche de bénévoles. Là, on a une bonne équipe, mais on a encore besoin d'assistants sociaux, on a besoin de juristes notamment, on a beaucoup de demandes de juristes. Donc, ce sont des profil particulier que l'on recherche. On continue de rechercher tous les psychologues, les sophrologues, les thérapeutes qui peuvent apporter un soutien à distance. Et surtout, ce dont on a besoin, c'est de l'aide de tout le monde, de toutes les personnes qui entendent ce message, de faire connaître Thérapeute Solidaire auprès des professionnels de santé, des personnels assimilés, dans les EHPAD, dans les établissements médico-sociaux, toutes ces personnes qui sont au front du coronavirus, hein, qu'elles connaissent ce dispositif et qu'elles sachent qu'il y a des équipes qui sont mobilisées, qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chez Thérapeute Solidaire, pour les accompagner, que c'est 100% gratuit, qu'on est là pour les aider. Et ça, c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est de partager cette information pour qu'ils sachent que ça existe et qu'ils puissent solliciter ce dispositif en toute liberté.
Merci beaucoup Camille Puech d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle, vous êtes CEO chez Cali Social, une société d'accompagnement pour le bien-être et l'efficacité au travail, et vous êtes aussi cofondateur de ce collectif national Thérapeute Solidaire qui met en place une ligne d'écoute et de soutien pour les professionnels de santé. Le numéro de téléphone, c'est le 0 980 800 600. Il y a également, je crois, un formulaire en ligne. En tout cas, toutes les infos sont à retrouver sur thérapeute-solidaire.fr. Je mettrai toutes les informations dans le podcast de l'émission.